Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 3 policiers palestiniens ont été tués hier soir dans des explosions dans la bande de Gaza. Ce matin, la situation reste confuse sur place, alors qu'Israël propose aux Gazaouis de quitter l'enclave pour des pays tiers. Cette annonce controversée reflète pourtant une réalité, vous le comprendrez grâce à notre correspondante.
Et nous irons ensuite en Afrique, à Madagascar, où les terres brûlent sur des milliers d'hectares cet été. Les feux sont allumés par des agriculteurs et nuisent gravement à la biodiversité.
Les Britanniques réussiront-ils à faire infléchir les Européens pour quitter l'Union avec un accord? Le négociateur du gouvernement est attendu aujourd'hui à Bruxelles, à 2 mois du Brexit programmé. Son portrait à suivre.
Et puis dans ce journal, nous vous raconterons aussi comment les cybergendarmes français ont réussi à nettoyer à distance plus de 800 000 ordinateurs infectés par un virus.
Dans un quart d'heure ensuite, Frédéric Seyss se demandera dans son billet politique si l'on est moins exigeant avec des dirigeants populistes. La bande de Gaza est ce matin en état d'urgence après 2 explosions hier soir au niveau de postes de contrôle. 3 policiers palestiniens sont morts. Les forces de sécurité de l'enclave ont ouvert une enquête et déjà l'armée israélienne assure n'avoir effectué aucun raid aérien dans les zones concernées. Israël, qui a 3 semaines d'élections anticipées dans le pays, et craint toujours un regain de violence dans la bande de Gaza. Alors pour les éviter et pour soulager la tension démographique sur place, 2 millions de Gazaouis y vivent. Le gouvernement israélien maintient le blocus, mais se dit prêt à encourager l'émigration. Cela passera par plusieurs mesures, Marine Vlaovic.
Financer des billets d'avion, faciliter l'accès à un aéroport ou encore négocier avec des pays tiers pour l'accueil des exilés. Voilà le plan pour encourager l'émigration des habitants de la bande de Gaza, selon l'aveu même d'un haut responsable israélien proche de Benjamin Netanyahou. Une annonce controversée dans un contexte de campagne électorale et qui n'a rien d'humanitaire selon Myriam Marmour, porte-parole de Gisha, une ONG israélienne qui défend la liberté de circulation des Palestiniens.
Après des années de pression délibérée sur Gaza, c'est-à-dire 12 années d'un blocus asphyxiant ouvertement conçu pour mettre les habitants à genoux, après tout ce temps, Israël est prêt à tirer parti de ce désarroi qu'il a créé à Gaza en vidant l'enclave de ses habitants. C'est vraiment consternant et cela soulève de vraies inquiétudes sur le possible transfert d'une population sous occupation. C'est une violation de la Convention de Genève et c'est donc considéré comme un crime de guerre.
Fuyant la crise humanitaire, économique, mais aussi énergétique qui s'éternise dans la bande de Gaza, gouvernée d'une main de fer par le Hamas, les Gazaouis émigrent déjà en masse. Depuis l'ouverture régulière du point de passage avec l'Égypte il y a plus d'un an, des dizaines de milliers d'entre eux ont quitté définitivement l'enclave, selon les experts. Direction la Turquie, un petit nombre rejoint l'Europe pour y demander l'asile, un nombre qui ne cesse pourtant d'augmenter. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 1200 Palestiniens sont arrivés en Grèce par la mer entre janvier et juin cette année.
Marie Vlaovic, correspondante dans la région de RFI pour France Culture. Le gouvernement brésilien se dit finalement ouvert à un soutien financier pour éteindre les incendies en Amazonie, à une condition toutefois que le Brésil s'occupe lui-même de cette aide financière et de la gestion des incendies. La souveraineté du Brésil n'est pas négociable, déclare ainsi le porte-parole du gouvernement, alors que le président Jair Bolsonaro se targue, lui, d'avoir le soutien sans réserve que lui a exprimé hier Donald Trump, soutien de son homologue américain, climato-sceptique également. Donald Trump estime que Bolsonaro fait, je le cite, du bon boulot face aux incendies en Amazonie. L'Amazonie qui brûle, tout autant que l'île de Madagascar en ce moment. Mais dans ce pays, l'un des plus pauvres du monde, la pratique est habituelle. Les feux sont déclenchés chaque année par les agriculteurs pour utiliser davantage de terres. Si les causes de ces incendies sont différentes de celles en Amazonie, les conséquences en revanche n'en restent pas moins catastrophiques pour la faune et la flore. Sarah Teto est à Antananarivo pour France Culture et elle raconte.
Il y a 15 jours, Olivier Adirisson s'est rendu en voiture dans l'ouest du pays. 18 heures de trajet aller-retour traumatisante qu'elle a tenu à partager sur les réseaux sociaux.
J'ai été choquée. C'est impressionnant, toutes ces flammes, ça allait jusque vers la route. Et ma première réaction, c'était de poster ces photos sur Facebook pour partager mon indignation. Indignation qui n'est pas toujours partagée. Certaines personnes trouvent ça encore normal ou banal ou justifient ces feux de brousse par les pratiques culturelles.
Et les raisons de ces pratiques sont essentiellement liées aux techniques agricoles encore très artisanales. Défrichement, culture sur brûlis, nettoyage saisonnier, charbonnage ou encore aide à la repousse de l'herbe dans les pâturages. Nzantou Razak Manarin, le président de l'Alliance Wargas, une organisation pour la préservation de l'environnement, regrette le manque de poigne des autorités pour endiguer un phénomène qui a empiré ces trois dernières années.
Si vous regardez sur la satellite Maudis, Madagascar brûle tous les jours dans cette saison. C'est la tragédie des biens communs. On se rejette les responsabilités parce qu'on ne sait pas si c'est la responsabilité du secteur forestier ou du secteur élevage ou de l'agriculture. Donc c'est cette solidarité gouvernementale aussi qui manque beaucoup et jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu de plan de lutte sérieuse contre les feux à Madagascar alors que c'est le plus grand fléau de l'appauvrissement du pays.
À Madagascar, les auteurs de feux de brousse encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, mais dans les faits, la pratique reste tolérée. Ainsi, l'île rouge n'a jamais, hélas, aussi bien porté son nom.
C'était un reportage de Sarah Teto à Antananarivo pour France Culture. Hier, nous avions appris qu'un laboratoire pharmaceutique américain était condamné outre-Atlantique à payer plus de 570 millions d'euros d'amende pour avoir participé à la crise des opiacés. Eh bien, d'autres groupes pharmaceutiques aux États-Unis pourraient accepter de payer des sommes beaucoup plus importantes pour éviter un procès. L'un d'eux aurait déjà proposé entre 10 et 12 milliards de dollars pour solder plus de 2000 plaintes déposées contre lui dans l'Ohio. Ces groupes pharmaceutiques sont accusés d'avoir encouragé des médecins à surprescrire des médicaments antidouleurs, créant ainsi des dizaines de milliers de dépendances aux États-Unis. Le négociateur du Royaume-Uni sur le Brexit arrive aujourd'hui à Bruxelles. Il est missionné par le chef du gouvernement Boris Johnson qui, rappelons-le, souhaite quitter l'Union européenne le 31 octobre prochain avec ou sans accord. L'émissaire britannique doit donc tenter aujourd'hui d'arracher quelques concessions, notamment sur la question de la frontière irlandaise. Son point fort pour cela pourrait être sa fine connaissance de la politique européenne, Antoine Gignot.
C'est un homme de l'ombre, un habitué des coulisses. David Frost a passé au total plus de 20 ans au ministère des Affaires étrangères britannique, conseiller, diplomate, ambassadeur au Danemark dans les années 2000. Il maîtrise tous les rouages de l'Union européenne, mais reste un eurosceptique convaincu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Boris Johnson lui fait confiance. Il l'a rencontré lorsqu'il était ministre, il a travaillé avec lui jusqu'en 2018 et il partage, comme lui, la conviction que les Britanniques doivent s'éloigner de Bruxelles. Dans un article publié en 2015, il explique d'ailleurs clairement quelles sont pour lui les meilleures méthodes de négociation avec les 27. Il faut d'abord nouer des alliances avec d'autres pays pour avoir des appuis, dit-il. Il faut surtout ensuite faire croire à l'adversaire que ce que l'on réclame est parfaitement normal. Mais même s'il a de l'expérience et des réseaux, David Frost manque de temps. Il n'a qu'un peu plus de 2 mois pour proposer des solutions nouvelles au problème de la frontière irlandaise et pour briser l'unité qu'affichent depuis 3 ans les responsables européens.
Le Premier ministre essaie donc toujours de décrocher un accord, au moins un minima, avant de quitter l'Union européenne. Face à lui, en ce moment à Londres, les partis d'opposition se disent déterminés à empêcher une sortie sèche, sans accord. Et dans le même temps, en revanche, le parti du Brexit de Nigel Farage menace Boris Johnson de torpiller des élections s'il ne rompt pas brutalement avec l'Union européenne. La Grande-Bretagne, que des migrants tentent toujours de rallier par la mer. Hier, c'est dans une embarcation en panne dans la Manche que les autorités françaises ont secouru 22 personnes, dont 11 enfants. Elle rêvait encore d'Angleterre. Le suspense est entretenu à l'Élysée. Le nom du candidat français à la Commission européenne n'a finalement pas été dévoilé hier. Paris aimerait obtenir un dossier reflétant l'une de ses priorités politiques, comme le commerce ou le climat. Le futur commissaire remplacera Pierre Moscovici. Mais pourquoi faire, Angélique Boin?
C'est un peu comme un ministre. La présidente lui confie un portefeuille en rapport avec ses compétences, commerce, climat ou encore numérique. En 2014, le français Pierre Moscovici avait hérité des affaires économiques et financières, poste parmi les plus prestigieux. Il est nommé pour 5 ans et sous son autorité travaillent des milliers de fonctionnaires. Les commissaires sont en charge de la préparation et du suivi des lois que la Commission propose aux eurodéputés et aux gouvernants de l'UE. Ils gèrent le budget de l'Union et surveillent ceux des États. Ils veillent aussi au bon respect des règles consenties par les 27. La Commission est en effet la gardienne des traités. Comme à l'Élysée, les commissaires se réunissent le mercredi. Parler l'anglais est un minimum, le français ou l'allemand un réel atout. Il ou elle doit enfin être indépendant de son pays d'origine et de son parti politique. Il est en effet là pour défendre l'intérêt général et il doit bien sûr être pro-européen. Tous les candidats proposés par les États membres ne seront pas automatiquement retenus, a précisé hier une porte-parole de la Commission. Un avertissement assez clair en direction des gouvernements populistes.
Les candidatures des 27 doivent en effet être validées par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'équipe prendra ensuite ses fonctions le 1er novembre.
8h10 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Des cyber-gendarmes français ont réussi à neutraliser un virus géant.
Ah oui, un réseau informatique pirate, Guillaume, qui permettait de prendre la main à distance sur près de 850 000 ordinateurs à travers le monde. Dans le jargon de la cybercriminalité, on appelle ça un botnet, une contraction de robot, bot et de réseau net. Il a donc été neutralisé. C'est une première mondiale réalisée par des experts français à l'insu des criminels. Leur serveur informatique était basé en Île-de-France. Il était très performant, comme l'indique l'un des gendarmes qui a travaillé sur l'affaire. Il l'a dit à Emmanuel Leclerc.
Cette grosse flotte d'ordinateurs permettait de faire des attaques mondiales énormes. C'est une puissance de feu énorme qui permet de faire tomber tous les sites de la planète s'ils le veulent. Il fallait vraiment faire cesser l'infraction.
Le colonel de gendarmerie Jean-Dominique Nollet est le chef du C3N, le centre de lutte contre la criminalité numérique. Ses équipes ont réussi à désactiver à distance un virus installé dans des centaines de milliers d'ordinateurs à travers la planète, à l'insu de leurs propriétaires. Il fallait pour cela prendre le contrôle du serveur informatique qu'un groupe criminel avait installé en Île-de-France.
Grosso modo, on a réussi à détecter où était le serveur de commandement, la tour de contrôle du botnet, et on l'a copié, on l'a répliqué avec un serveur à nous, et on lui a fait faire des choses qui permettent au virus d'être inactif sur les machines des victimes.
Et c'est un signalement du fabricant d'antivirus Avast au début de l'année qui a permis l'ouverture d'une enquête judiciaire, une affaire hors norme, avec une coopération inédite du FBI et de la justice américaine qui ont permis de bloquer sur Internet des noms de domaines déposés aux États-Unis. Ainsi, à chaque connexion sur la toile, les ordinateurs infectés étaient redirigés très discrètement vers le serveur des cyber-gendarmes de Cergy-Pontoise et nettoyé au passage.
La France en pointe sur le numérique donc, et elle se transforme petit à petit dans le domaine de la justice. La ministre a ainsi inauguré hier le suivi en ligne des affaires civiles. C'est possible sur le portail justice.fr. Ce système avait été testé pendant 2 mois à Lille ainsi qu'à Melun. Melun où s'est rendue pour France Culture Florence Turm. Premières impressions.
Jusqu'alors, le site justice.fr permettait de connaître ses droits et les démarches nécessaires, mais désormais, tout justiciable peut suivre l'avancement de la procédure engagée dans une affaire civile, et ce, sur un espace personnel sécurisé, explique Audrey Hiller, chef du projet Portalis de dématérialisation de la justice.
Il pourra donc consulter ses prochaines dates d'audience, télécharger les documents qui étaient jusqu'à présent envoyés par lettre simple ou lettre recommandée, et il recevra par SMS des rappels de convocation quelques jours avant son audience.
Mais ces transformations ne doivent pas créer ou aggraver une quelconque fracture numérique, notamment chez des populations parfois déjà fragilisées, insiste la chancellerie. Dans le grand hall du tribunal de Melun, un service unique d'accueil du justiciable renseigne les visiteurs sur leur dossier et Virginie Goffreau, greffière, les accompagne aussi dans cette démarche numérique qui reste facultative.
Nous, là où on va être important, c'est pour tous ceux qui ne pourront pas se saisir de cette numérisation. Toutes ces personnes-là, elles auront besoin de venir nous voir pour nous demander comment faire.
Alors voilà, donc ça c'est notre exemplaire. D'accord. Et après, vous attendez d'avoir la convocation. D'accord. Et monsieur, il sera, si vous la garde alternée, il va venir à l'audience.
Passer les premières inquiétudes, y compris chez certains agents du greffe, ce nouveau service pourrait permettre aussi une meilleure compréhension de la justice, estime Béatrice Angelelli, procureur de Melun.
C'est très difficile de déposer une plainte, par exemple, et ne pas savoir. On a l'impression que les semaines ou les mois se passent sans qu'on ait une indication. Là, au moins, ils pourront suivre en temps réel l'avancement de leur dossier et ils auront accès à tous les stades de la procédure. Donc, l'information participe forcément de la meilleure compréhension du système judiciaire et c'est extrêmement important.
Prochaine étape, permettre aux justiciables de saisir directement une juridiction en ligne. Après une nouvelle expérimentation à la fin de l'année, le dispositif sera opérationnel début 2020.
Voici un dispositif qui semble déjà avoir fait ses preuves. Un service du fisc en France a permis depuis 5 ans aux repentis fiscaux de déclarer des fonds placés dans des pays pratiquant le secret bancaire. Cela fait suite à l'affaire Cahuzac et cela a rapporté depuis 2014 à l'État français 9 milliards d'euros en impôts et en amendes. La Martinique s'est endormie tout à l'heure, secouée par la tempête tropicale Dorian. Elle a traversé l'arc antillais, faisant quelques dégâts en Martinique, notamment des inondations dans le sud de l'île. La tempête se dirige à présent vers Porto Rico et la République dominicaine. En France métropolitaine, le ciel sera ce mercredi orageux dans le nord, légèrement pluvieux ce matin sur le nord de la Bretagne et de la Normandie, avant que le soleil ne s'y fasse une place. Partout ailleurs, les éclaircies seront belles, jusqu'à ce que les orages n'arrivent par la partie est de la France. Ce matin, comptez 18 degrés à Pont-l'Ivard, 23 à La Rochelle, 24 à Lille, 25 degrés à Paris-Besançon et Lyon, 27 à Marseille et sur la Corse ce matin.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.